France Musique.
Quand Stendhal note les sons de son âme. Toute sa vie, Stendhal a l'illusion d'être un musicien manqué, s'étant dirigé fortuitement vers les lettres. Le hasard, a-t-il écrit dans la vie de Henri Brulard, a fait que j'ai cherché à noter les sons de mon âme par des pages imprimées. Parmi ses premiers plaisirs musicaux, il rappelle quand il était enfant à Grenoble le son des cloches de l'église Saint-André, le bruit de la pompe de la place Grenette et aussi le bruit d'une flûte qu'il entendait jouer à un quatrième étage sur cette même place Grenette. Il essaye sans succès d'apprendre le violon. À l'insu de ses parents, il prend des leçons de chant, mais il est le premier à avoir horreur des sons qu'il aimait. Alors, quand il se met en tête d'écrire sur la musique, tous ses amis le mettent en garde sur son ignorance en la matière. Mais lui, sait bien qu'il est capable de discerner dans les œuvres qu'il entend les nuances qui échappent à ses mêmes amis. Il met tous ses soins à connaître le style des compositeurs qu'il aime, car il est persuadé, comme il le confie, que réfléchir sur les beaux-arts fait sentir. Pour Henri Beil, futur Stendhal, la révélation du vrai plaisir musical surgit lors d'une représentation du mariage secret du compositeur italien Cimarosa. Un soir de mai 1800, alors qu'il vient de franchir les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, en poule mouillée complète, avoue-t-il, il découvre, émerveillé et séduit, l'Italie de ses rêves et le monde de l'opéra. À 16 ans, à peine sorti de l'école centrale de Grenoble, Henri Beil vient de quitter sa famille et sa ville natale pour se rendre à Paris, chez son cousin Pierre Daru. Alors secrétaire général à la guerre, ce dernier l'invite à le suivre en Italie, où il rejoint les troupes du premier consul. Dans Milan, où les Français ont chassé les occupants autrichiens, le jeune Beil commence son apprentissage d'homme du monde et de séducteur. Nommé sous-lieutenant au 6e Dragon, promu aide-de-camp du général Michaud en février 1801, Beil profite de son séjour milanais pour fréquenter le théâtre de la Scala, où se scelle sa passion pour la musique, son admiration pour les divas et son désir d'apprendre la clarinette. Vivre en Italie et entendre de cette musique devint la base de tous mes raisonnements, confie-t-il. Au cours de ses nombreuses pérégrinations, de Bergame à Crémone, de Vérone au lac Majeur, Henri Beil entreprend de rédiger ce qui deviendra l'histoire de ma vie. Un écrivain français vient de naître en Italie. En 1802, il retrouve la vie civile et, fasciné par le théâtre et les actrices, Henri vagabonde en France, entre Paris, Grenoble et Marseille. Il fréquente les salons où l'on fait de la musique tout en discutant des doctrines nouvelles. Bientôt, Rossini, le compositeur en vogue, fraîchement débarqué d'Italie, fait triompher l'opéra italien sous la Restauration. Le champion d'un art moderne encourage les tentatives littéraires d'un jeune romantisme en quête de lui-même. L'opéra est dès lors un objet de réflexion privilégié pour le futur auteur de La Chartreuse de Parme. Un roman comme un opéra, moins les notes peut-on lire, où les personnages se répartissent les emplois du répertoire lyrique. Une distribution en actes et tableaux. L'expression même des passions qui échappent au registre littéraire. Une écriture harmonique et fuguée où les leitmotifs s'entrelacent. Tout y est. Stendhal parvient dans sa Chartreuse à la fusion tant recherchée. Le roman, composé en 1839, est devenu chant. Mais Henri Beil repart sur les routes d'Europe et s'embarque en Allemagne auprès de son autre cousin. Il est alors adjoint au commissaire des guerres suite à la bataille d'Iéna du 14 octobre 1806 qui oppose l'armée française, dirigée par Napoléon, à l'armée prussienne. Les deux mois passés au cœur de la vieille Allemagne donnent au jeune homme l'occasion de faire des excursions alentour. C'est au cours de ses pérégrinations que, s'arrêtant dans une petite ville nommée Stendhal, il a l'idée de faire de ce toponyme prussien enjolivé d'un H, son futur nom de plume. Enfin, au printemps 1809, Beil décide d'accompagner Pierre Daru en Autriche pour de nouvelles aventures militaires. Arrivé à Vienne, en juin 1809, il s'empresse d'assister à la messe de Requiem, célébrée à la mémoire de Joseph Haydn, qui vient de mourir. Toujours habité de sa passion pour l'art lyrique, il fréquente frénétiquement l'opéra et savoure plusieurs fois le Don Giovanni de Mozart. Mais il tombe malade quelques semaines plus tard et s'épargne ainsi d'assister à la sanglante bataille de Wagram qui oppose 500 000 hommes pendant 50 heures à quelques kilomètres de la capitale autrichienne. Il rentre alors en France, fatigué de l'état militaire. À 27 ans, Henri n'a ni la sveltesse ni l'élégance dont il part plus tard ses héros, Julien Sorel et Fabrice Del Dongo. Alourdi par un appétit d'ogre, il se plaint de son physique enveloppé, disgracieux, de son teint rougeau et de sa calvitie naissante. L'homme qui voulait séduire toutes les femmes, l'amoureux fou, mais généralement éconduit des comtesses et des cantatrices, a pour leur plaire esprit, finesse et culture. Remarqué pour ses qualités d'intendant lors de la campagne d'Autriche, il est nommé auditeur au Conseil d'État, puis inspecteur du mobilier impérial, et repart ainsi pour un congé de 2 mois en Italie. Henri quitte Paris en diligence et arrive le 7 septembre 1811 à Milan. Il y retrouve les plaisirs de sa jeunesse et la douceur de vivre de la capitale du nouveau royaume d'Italie que dirige Eugène de Beauharnais. Bell entreprend alors son grand tour qui le conduit à Bologne, Florence, Rome et Naples où règnent Murat et Caroline Bonaparte. Il sillonne alors la capitale animée comme une scène de théâtre. Écoute la Vestale de Spontini au Teatro San Carlo. À force d'être heureux à la Scala, dit-il, j'ai l'impression d'être devenu une espèce de connaisseur. Il y passe alors l'essentiel de ses soirées et achève de s'y former musicalement. De retour en France, 3 fois par semaine, entre 1811 et 1813, il revient de Saint-Cloud à Paris, tout exprès pour écouter, ne fût-ce qu'un acte, du Matrimonio Segreto, qu'il se vante d'avoir écouté 100 fois. N'est-elle pas pour Stendhal l'œuvre où l'amour est peint supérieurement et dans toutes ses nuances ? Mais peu à peu, celui qui pénètre définitivement son cœur pour n'y plus s'y déloger est le jeune maître de Salzbourg. Dans une de ses lettres sur Haydn, il le définit comme le génie de la douce mélancolie. « Mozart n'amuse jamais, dit-il. C'est comme une maîtresse sérieuse et souvent triste, mais qu'on aime davantage, précisément à cause de sa tristesse. » Pour Stendhal, il n'y a aucun ouvrage de littérature qui peut lui procurer un aussi vif et aussi complet plaisir que Don Juan. Il conçoit alors que dans les jours heureux, on peut préférer Cimarosa. Mais il réserve Mozart pour les moments de mélancolie rêveuse et pleine de charme. C'est un de ces airs que vous vouliez entendre répéter dans la forêt par le cor lointain, confie-t-il. Sur le mur de sa chambre de jeune homme, un portrait du divin Mozart voisine avec une reproduction du bain de Léda du Corrège. Plus que tout au monde, il se délecte du plaisir tendre et sublime que lui procurent les toiles de l'un et la musique de l'autre. Dans ses lettres sur Haydn, il se hasarde même à dresser un tableau de concordance entre peintre et musicien. Alors que Haydn, précisément, est le Tintoret de la musique, car il unit, comme le peintre vénitien, le feu, l'originalité, l'abondance des inventions. Paisiello en est le guide, et Gluck, le Caravage. Mais que dire de Mozart ? Raphaël, sans doute. Le peintre a plusieurs des qualités tendres et des perfections modestes du jeune compositeur. Tchaïkovski ne nommait-il pas le peintre le Mozart de la peinture ? Stendhal attend de la musique qu'elle suscite en nous des rêveries, des émotions et qu'elle dispose l'âme aux passions tendres. Son imagination est à ce point stimulée par la musique qu'il se prend à penser que s'il venait à la perdre, il perdrait peut-être en même temps son goût pour la musique. La bonne musique ne se trompe pas et va droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui nous dévore. Mais déjà pour Stendhal, avant Baudelaire, les sons et les couleurs se répondent. Les sons d'une flûte évoquent les draperies bleues d'outre-mer des toiles de Carlo Dolci. Un paysage est un archet qui joue sur l'âme. Comme de la musique de Mozart, confie Madame Derville dans Le Rouge et le Noir.
À réécouter sur francemusique.fr.